Chapitre 47. Entre un troquet et une cordonnerie, dans la rue face au cimetière de Saga, se trouvaient les pompes funèbres Esquimet. C'était une large bâtisse de pierre dont le rez-de-chaussée était composé d'une partie marbrerie et d'une partie funérarium. David Esquimet pouvait entrer et sortir de chez lui par l'arrière, évitant ainsi de passer par le fonds de commerce. Paul avait déniché un jeu de clés dans le blouson de la victime. Avec, il ouvrit la porte d'entrée et grimpa à la volée de marche, accompagné du jeune Brunet. Le reste de l'équipe était toujours en train de fouiller le chalet. Il avait demandé à un employé de l'attendre en bas afin de lui poser des questions. Une autre clé lui donna accès à l'habitation de l'étage. C'était un vieil appartement de célibataire au plancher craquant, aux murs tapissés à l'ancienne, avec ses meubles rustiques en bois massif. Tellement imposant que le fait qu'ils aient pu être transportés jusque-là relevait du mystère. David Esquimet n'avait pas fait beaucoup d'efforts de décoration depuis la mort de son père. Paul balaya le salon du regard, sans déceler de bibliothèque. Il s'orienta vers le couloir, passa devant la salle de bain. Une première chambre avait été transformée en bureau. Des photos étaient accrochées sur un pêle-mêle, ses parents, David plus jeune, puis des portraits de Louise et lui, au bord de la rivière ou en promenade dans la nature. Le gendarme serra les dents. À l'évidence, Esquimet n'avait rien laissé traîner de compromettant ici et avait tout fait pour que Louise ne découvre pas sa face cachée. Il s'empara de l'appareil photo numérique posé à côté de l'ordinateur. C'était un beau modèle, un Canon de qualité. Il parcourut les images que contenait la carte mémoire. Là non plus aucune trouvaille. Esquimet avait effacé ses horreurs. Il se tourna vers son subordonné. « Ordinateur, appareil photo, portable, tu embarques. Faudra faire analyser les disques durs. » Il inspecta l'autre chambre et fut saisi d'un frisson en imaginant que Louise avait dormi dans ce lit avec ce taré. Il s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le cimetière. Il chercha la tombe de sa première femme, perdue au loin dans le gris des stèles. Avec une vue pareille, Esquimet passait en quelque sorte ses journées et ses nuits en compagnie des morts. Tout cela était d'un glauque. Il jeta un œil dans l'armoire, repéra des coffres métalliques remplis de paperasses. Tout était rangé avec soin, à l'aide de classeurs et d'onglets. Il ne tarda pas à mettre la main sur les avis d'imposition. Ils indiquaient, comme il s'y attendait, que David était effectivement le propriétaire du chalet du lac Noir.
« Tu t'occuperas des papiers aussi » cria-t-il. « Passe tout au crible !» Il nous faut ce fichu manuscrit, je descends.
Il rejoignit l'employé des pompes funèbres au bas des marches. L'homme s'appelait Denis Huron, thanatopracteur, pas loin de la soixantaine. Il travaillait pour les Esquimets depuis plus de 25 ans, d'abord le père puis le fils, et était encore ébranlé par la mort brutale de son jeune patron.
C'est tellement soudain, fit-il en glissant les mains dans ses poches. Hier il était là et aujourd'hui c'est fini. Pourquoi il a fait une chose pareille?
C'est ce que l'enquête va chercher à déterminer. Vous étiez au courant que David était propriétaire d'un chalet du côté du barrage?
Huron mit du temps à s'arracher à ses pensées et à répondre.
Je savais, oui. David en avait hérité de son père qui lui-même en avait hérité de ses parents. Le grand-père, le vieux, il a aidé à la construction de la centrale hydroélectrique ou je ne sais pas quoi. David vivait au-dessus de la boutique pour des raisons pratiques, mais je crois qu'il aimait bien aller là-haut, de temps en temps.
Jamais je n'aurais cru qu'un jour il...
Et son père, Claude, il habitait ici ou au chalet?
Il a toujours habité ici. Il préférait louer le chalet aux touristes qui aimaient les coins paumés. Il faut l'avouer, c'est quand même très joli au lac Noir. Et ses petites affaires lui rapportaient pas mal de blé.
Il passait par une agence de location?
Une agence de location? Vous avez déjà vu une agence ici? Non, c'était au Black. Il n'y a jamais eu de problème avec ça. Il affichait même des petites annonces à la boulangerie ou dans les commerces avec des photos et son numéro de téléphone.
Il n'y aurait aucun moyen simple d'identifier les locataires de 2007, mais Paul entrevoyait de plus en plus clairement le scénario qui s'était déroulé. L'homme qui avait eu une aventure interdite avec Julie avait loué le chalet au père de David. Peut-être cet individu avait-il séjourné à l'hôtel de la Falaise auparavant, le temps de trouver un logement plus confortable. Il était tombé sur la petite annonce. Il avait alors quitté l'établissement de Romuald Tanchon pour s'installer là-haut, invitant Julie à le rejoindre dans le plus grand secret.
Je sais que ça remonte à loin, mais si je vous dis été 2007, celui avant la disparition de Julie Moscato, vous savez si le chalet était occupé ? Par un artiste, un écrivain ? Denis Huron ne sembla même pas vouloir se creuser la cervelle. Il haussa les épaules du tac au tac. « J'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, j'ai jamais entendu parler d'un écrivain. Pourquoi vous voulez savoir ? C'est quoi le rapport avec David ? Les enquêtes nous poussent à creuser toutes les pistes, c'est tout. On veut s'assurer qu'il n'y a pas autre chose derrière ce qui ressemble à un suicide, vous comprenez ?» Huron acquiesça et Paul se dit, à s'écouter parler, qu'il aurait sans doute mené une excellente carrière de comédien. « J'aimerais voir la salle de préparation des corps. » Denis Huron s'engagea dans un couloir à gauche de l'escalier. Il ouvrit la porte du fond, alluma la lumière et descendit trois marches. Ils franchirent un sas où étaient suspendues des combinaisons, des masques et des calots. Paul remarqua les tenues et draps emballés de couleur bleue, rangés dans un casier. « Je vous demanderai d'enfiler les surchaussures, » réclama Huron en lui en tendant une paire. « On n'a pas de défunt pour l'instant, mais c'est une question d'hygiène. » L'homme l'y glissa à ses pieds d'un geste, se tenant sur une jambe, puis l'autre, avec un équilibre parfait. Paul, lui, dut s'asseoir sur un tabouret pour s'exécuter. « Combien d'employés travaillent ici ?»«
5, mais seulement 2 thanatopracteurs. »
Il était patron, mais la paperasse et la vente, c'était pas son truc. Il préférait le terrain, comme on dit.
Donc il pratiquait souvent des soins.
Ça dépend de ce que vous entendez par souvent. On n'est pas à Chicago non plus. Peut-être 2 ou 3 dans les meilleures semaines. Le reste, c'est moi qui m'en occupais.
Paul se releva avec une grimace, appuyant les 2 mains sur son genou valide. Ils franchirent une lourde porte étanche. La température ne devait pas dépasser les 10 degrés dans la salle sans fenêtre, au plafond bas, éclairée d'une lumière crue qui renforçait son aspect clinique. Elle mesurait 15 mètres carrés et disposait du nécessaire pour les soins de conservation. Vaste évier, siphon d'évacuation, système d'aération, autoclave de stérilisation des instruments, matériel de drainage, tout était propre, aseptisé. Paul remarqua 2 tiroirs de morgue, entrouverts et vides. Il s'approcha de la table en acier inoxydable, positionnée en plein milieu. Il réfléchit, immobile, puis se tourna vers son interlocuteur. « Comment sont apportés les corps ?»«
Par le garage, juste à côté de l'endroit où vous êtes entré. Il y a un accès direct sur le couloir, où on a un brancard à disposition pour faciliter les derniers mètres. » Après les soins, on les transfère à la chambre mortuaire pour que les familles puissent venir se recueillir.
Les corps peuvent rester ici la nuit ?
Oui. Quand ils arrivent tard ou le week-end, on les met dans l'une des 2 cases réfrigérées et en général, on s'en occupe le lendemain.
Paul promena ses doigts sur le métal glacial, observa les angles, puis il se dirigea vers les cases en question, dont on contrôlait la température interne avec un thermostat. L'odeur de cadavre était ici plus forte qu'ailleurs. Je vais vous demander d'être franc avec moi. Certains gestes de votre patron pouvaient-ils vous suggérer qu'il développait une forme d'attrait pour les morts ?
Une forme d'attrait ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Était-il du genre à photographier ses clients ? À les toucher autrement que de façon professionnelle ? Vous a-t-il déjà mis mal à l'aise ? Le visage d'Huron s'empourpra de colère.
« Vous nous prenez pour des espèces d'obsédés ou quoi ? Bien sûr que non. Il n'y a jamais eu de ça ici. David était un pro, très respectueux. On ne peut pas faire ce métier si on ne respecte pas les défunts. »
Paul l'avait méchamment vexé, mais il n'était pas là pour faire dans la délicatesse. Il ouvrit la galerie de photos de son téléphone et le tendit au thanatopracteur. « Je ne vous pose pas ces questions à la légère. » On a découvert ces clichés dans la remise attenant au chalet de David. Ils étaient imprimés et soigneusement rangés dans un album. Il y en a 30. J'aimerais que vous y jetiez un œil. Huron chaussa les lunettes attachées par une cordelette noire autour de son cou. Ses sourcils gris disparurent derrière la grosse monture lorsqu'il les fronça. Il balaya l'écran de son index.
Merde alors.
À votre avis, cette pièce a pu servir de décor à ce que vous voyez ?
Difficile à dire. On possède ce genre de tissu, mais comme toutes les salles de soins ou n'importe quelle morgue. On voit mal la table. Hormis le sujet, tout est flou. Je ne peux rien vous dire. Mais bon sang, qu'est-ce que tout ça signifie ?
Paul vint se placer juste à ses côtés. David a peut-être réalisé ses mises en scène quand il était seul, la nuit par exemple. De l'étage, il pouvait venir ici directement, et donc sans personne pour le surprendre. Il avait le champ libre.
Huron avait perdu toute son agressivité. Il s'était appuyé contre un mur abasourdi.
« Regardez attentivement ses membres, ses détails, ses blessures, » poursuivit Paul. « Ça vous parle ? » ?»«
Auriez-vous déjà vu des cadavres avec ces caractéristiques ?»«
Ça n'est pas forcément récent. Prenez votre temps. »«
C'est très important. »
Il réajusta ses lunettes sur son nez et s'attarda sur chaque cliché. Il finit par secouer la tête.
« Je suis désolé. »
Paul récupéra son téléphone.
« Vous allez être convoqué pour passer à la brigade dans les prochains jours, afin de mettre tout ça sur papier. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des formalités, tous les employés vont y avoir droit. On veut juste essayer de cerner la personnalité de votre patron. »
Denis Huron acquiesça avant de sortir, bras ballants, pareil à un combattant groggy.
Paul resta seul dans le ronflement de la ventilation, les narines saturées des odeurs de produits d'hôpitaux.
L'espace d'une seconde, il vit Julie couchée là, nue, bras et jambes écartés, le corps marbré des stigmates de la mort. Il s'empressa d'éteindre la lumière et quitta la pièce avec l'impression qu'un courant glacé lui caressait l'échine.